Radio Kapi.
Il n'y a pas de pénurie de carburant actuellement dans le pays. Ne faites donc pas des stocks dans des bidons, car c'est un produit extrêmement dangereux. Mise en garde du président du regroupement des sociétés pétrolières privées, Emery Bopé assure que la RDC a suffisamment de carburant et toutes les stations-service seront servies par cette Congo. Des jeunes membres du collectif Génération Chute Katende plaident pour la relance des travaux de cette infrastructure pour l'électrification du Kasaï central. Après avoir appris que certains matériels se trouvant à Lubumbashi seraient en train de se perdre, ces jeunes veulent savoir ce qui bloque la reprise des travaux. Une nouvelle loi régit le régime général de la sécurité sociale en RDC depuis janvier 2019. Ainsi, au Sud Kivu, la direction provinciale de la Caisse nationale de sécurité sociale a organisé une matinée de sensibilisation de ce nouveau cadre législatif. Pour en parler, nous recevons Madame Georgette Kavira, directrice provinciale de la CNSS. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonjour. D'abord cette nouvelle, à Kinshasa, plusieurs maisons ont été calcinées à la suite d'un incendie déclaré hier au quartier des Bonhommes dans la commune de Matete. Le commandant de la police nationale PNC Moamba, le colonel Freddy Lusenge, qui livre l'information à Radio Kapi, indique que c'est une station-service qui aurait pris feu. Les causes de cet incendie ne sont pas encore élucidées et il est difficile de déterminer le nombre des maisons brûlées pour l'instant, poursuit-il. La police a placé des barrières pour empêcher la population de s'approcher du lieu de cet incident. Pas de panique, il n'y a pas pénurie de carburant actuellement dans le pays, selon Emery Bopé, président du regroupement des sociétés pétrolières privées et membre du comité de la structure des prix. La RDC a suffisamment de carburant à l'heure qu'il est et CEP Congo est en train de fournir des efforts pour que toutes les stations-service soient servies. Il demande à la population de ne pas faire des stocks de carburant dans des bidons, car c'est un produit extrêmement dangereux qui doit être manipulé par des mains expertes. Emery Bopé explique la situation au téléphone de Jiré Anania.
Les produits pétroliers ne peuvent pas être manipulés par des mains inexpertes. C'est un produit extrêmement dangereux. Nous risquons de voir les gens faire des stocks de carburant dans des bidons, avec toutes les conséquences. Donc moi je pense que la population ne doit pas céder à la distraction. Le gouvernement est en place, il y a deux ministères qui gèrent ce secteur-là. Il y a eu même une réunion avec les terminaux aujourd'hui, où on a essayé de voir qu'est-ce qu'il y a à CEP Congo, qu'est-ce qu'il y a à Saucir, qu'est-ce qu'il y a à SPSA, qu'est-ce qu'il y a, tout ça mis ensemble, on peut faire une projection. Alors pourquoi il faut céder à la panique? Et vous pouvez mesurer si tel était l'écart, quelles peuvent être les conséquences. Parce que les produits pétroliers, ça impacte d'autres secteurs de la vie. Donc on ne cède pas là, aux paniques. Donc il n'y a rien. Donc, les produits seront là, les barges vont monter, on va pomper, et puis je crois que CEP Congo va continuer à faire des mises en place, même jusque tard. Donc il y aura des produits dans les stations-service. C'est pas de problème. La population doit garder son calme.
Pendant ce temps, la coordination provinciale de la société civile Force Vive du Maniema appelle la population à observer une journée ville morte ce jeudi 17 mars dans la ville de Kindu. Selon Stéphane Kamundala, son président provincial, c'est pour dénoncer la flambée des prix des produits de première nécessité suite au mauvais état des routes. Pendant que les taxes sont payées par les opérateurs économiques chaque jour, l'insécurité grandissante et la privation des libertés du sénateur Matata Ponyo, devenu d'après la même source un prisonnier politique pour des raisons non fondées. En réaction, le gouvernement provincial, par le biais du ministre provincial de la Santé, qui assume l'intérim du gouverneur du Maniema en mission, demande plutôt à la population de vaquer à ses occupations. Kibungi Mutanga Junior juge l'appel de la société civile d'inopportun. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Nous avons été saisis à travers des communiqués à la presse que la population du Maniema et celle de la ville de Kindu seraient invitées à observer une journée ville morte le 17 mars 2022. Nous voulions ici, à travers votre micro, appeler la population à ne pas accepter cet appel parce que pour le gouvernement provincial, c'est inopportun. La société civile, c'est un partenaire des gouvernements. Quand il y a des problèmes, on doit se mettre autour d'une table et non pas de faire souffrir doublement la population pour demander aux gens de rester à la maison. Et pourtant, nous savons que beaucoup de gens doivent vaquer quotidiennement pour chercher le pain. Une fois leur demandé de rester à la maison, c'est faire souffrir toute la famille, les enfants et les autres, et surtout l'éducation des enfants. On ne doit pas demander aujourd'hui aux enfants de rester à la maison sans étudier. Vous voyez des conséquences que cela peut amener, mais pour éviter ça, nous sommes disposés à échanger avec la société civile.
Nord Kivu, 735 vaches sont bloquées à la frontière congolo-ougandaise à Kasama, côté ougandais, depuis la semaine dernière. Déjà 15 vaches sont mortes de faim et de soif. Motif, la suspension par l'administrateur du territoire de Beni de la traversée des bêtes en provenance de l'Ouganda, destinée pour la vente en RDC pendant cette période de l'état de siège. Il exige que les bêtes soient transportées à bord des véhicules afin de passer au service des douanes. Une situation que déplorent les bouchers et fournisseurs des bêtes. Ces derniers pensent que c'est une exigence de trop sur leur commerce. Face à cette situation, une délégation des bouchers du Grand Nord séjourne à Goma pour solliciter l'implication du gouverneur du Nord Kivu afin de trouver urgemment une solution à cette situation qui risquerait d'impacter négativement sur le panier de la ménagère du Grand Nord. Mukobo Fidel, premier conseiller de l'association des bouchers du Grand Nord, explique la situation au micro de Bernardine Diambo.
Nous sommes venus ici voir le gouverneur qui nous apporte la solution. Nous sommes les commerçants. D'une autre part, nous sommes les sinistrés. Là où nous sommes sinistrés, il faut que nous soyons exonérés un peu par l'État au niveau des taxes. Mais on ne compte pas de cela. Nous payons régulièrement nos taxes jusqu'à présent. Alors, venir encore ajouter une autre charge, ça devient très lourd pour nous. C'est pour cela que nous sommes venus demander au gouverneur qu'il nous allège que nos vaches, depuis 30 ans, ça passe en pied. Il n'y a pas de conditions qu'on peut poser. Si peut-être on nous disait que c'est pour l'insécurité. Aujourd'hui, il y a l'opération conjointe de l'Ouganda et le Congo. Est-ce qu'il ne peut pas nous sécuriser jusqu'à arriver à notre frontière? Là où on fait les bêtes, jusqu'à chez nous, au moins c'est 500 mètres. Les 500 mètres, il faut transporter encore les vaches ici, les 20 kilos.
Et en attendant que la délégation soit reçue par le gouverneur du Nord Kivu, il a été constaté un manque à gagner pour les commerçants, mais aussi une carence de la viande des bœufs s'observe déjà dans la région avec toutes les conséquences, notamment la hausse de prix sur le marché. Je vous le disais en titre, les jeunes regroupés au sein du collectif Génération Chute Katende mènent un lobbying à Kinshasa pour obtenir le redémarrage des travaux du barrage Chute Katende pour l'électrification du Kasaï central. Pour eux, depuis le dernier passage du chef de l'État dans la région, rien ne bouge alors que la promesse était faite pour la relance des travaux. Après avoir appris que certains matériels se trouvant à Lubumbashi seraient en train de se perdre, ces jeunes qui ont déjà rencontré certaines autorités veulent savoir ce qui bloque la reprise des travaux. Écoutez l'un d'eux, Clément Katabois, sur des propos recueillis par François Kadima.
Nous sommes venus à Kinshasa pour rencontrer certaines personnalités, entre autres l'ambassade de l'Inde en RDC, le ministre national des ressources hydrauliques. Nous avons constaté que depuis notre réception par le président de la République, il nous avait promis la relance des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Katende. Mais malheureusement, rien de bon ne marche. Plus loin, nous apprenons que les matériels de construction qui étaient à la gare SNCC à Lubumbashi, certains sont en train d'être volés. Premièrement, nous avons rencontré l'honorable Mathieu Ntolo qui a conduit la délégation vers Lubumbashi pour voir le matériel. Et c'est lui qui était l'auteur de l'alerte selon laquelle les matériels seraient en train d'être vendus. Il nous a confirmé l'information. Et il nous a même dit que le ministre des Ressources hydrauliques avait déjà envoyé une commission qui était en train de travailler sur cette question. Ils étaient déjà descendus. Et nous appelons par la même occasion les autorités à s'impliquer et aussi toutes les personnalités du Grand Kasaï à s'impliquer. Et par la même occasion, nous invitons le président de la République à pouvoir honorer ses paroles, de pouvoir relancer au plus vite que possible ce projet.
La conférence internationale sur la gestion des volcans RDC, qui est attendue du 19 au 20 mars prochain, est une opportunité pour la RDC et l'OVG en particulier pour exprimer le besoin d'être appuyé afin de rassurer la population et de bien mener la surveillance des volcans. C'est ce qu'a déclaré mercredi à Goma le point focal de la thématique bonne gouvernance de la société civile du Nord Kivu. C'était au cours d'une conférence de presse depuis la dernière éruption volcanique de Nyiragongo en mai dernier. Cette structure mène des plaidoyers auprès des autorités nationales pour que le fonctionnement de l'OVG soit amélioré en vue de protéger la population contre cette catastrophe naturelle. Étienne Kambale l'a dit au micro de Sifamaguru.
Nous pensons que la conférence qui sera organisée, ça sera une opportunité pour le gouvernement, pour l'OVG, les organisations de la société civile, d'informer au monde. Nous avons un besoin d'être appuyés pour informer objectivement la population. Est-ce qu'elle peut investir dans la ville? Comment elle doit se comporter? Qu'il n'y ait pas de questions taboues. Et les autres États du monde qui vivent avec les volcans, comment ils font? Comme ça, quand on a l'expertise de tous ces États amis, avec des professeurs chevronnés, des volcanologues de formation, ça rassure. C'est ce que nous voulons aussi pour nous, Goma. Et nous disons que si cela est fait, c'est une opportunité pour nous. Nous aimerions avoir plus de capteurs, des outils de surveillance, pour que à la minute, toutes les informations soient centralisées et les communicateurs, à ce qui concerne l'OVG, qu'ils communiquent objectivement.
Étienne Kambale note entre autres avancée de leur plaidoyer la signature de l'arrêté ministériel portant création d'une école de volcanologie et de surveillance des catastrophes naturelles à Goma et dont la société civile attend la concrétisation. Sur place à Goma, la population dit attendre beaucoup de cette conférence. Les personnes interrogées par notre rédaction de Goma disent espérer que des pistes de solutions seront trouvées en vue de protéger la population contre les dangers que représente ce phénomène naturel. Leurs propos ont été recueillis par Denise Lukeso.
Nous attendons de cette conférence un plan de contingence réaliste. Parce qu'il y a eu beaucoup de tâtonnements dans la gestion de la crise liée à l'éruption volcanique du 22 mai. Et on ne voulait pas que la même histoire se répète.
Moi, en tant qu'habitant de Goma, j'attends cette fois-ci de cette conférence qu'il y ait des décisions concrètes pour protéger la ville de Goma. Dans le passé, il y a eu des rencontres, des décisions annoncées, mais qui n'ont pas été suivies en acte. Qu'on regarde ces problèmes du gaz méthane dans le lac Kivu, parce que c'est aussi un grand danger pour toute la ville de Goma et aussi pour toute la région.
Cette conférence, pour moi, devrait répondre à des attentes. La première, c'est de permettre au gouvernement congolais de mettre, en tout cas, des services spécialisés, formés, équipés, pour intervenir à cas de catastrophes naturelles et gérer tout ça. Deuxièmement, ce qu'il faut maintenant budgétiser, c'est là.
D'abord, l'adoption d'un plan unique de contingence, que la population puisse être impliquée.
Parlons culture avec cette bonne nouvelle. Le musée national de Gungu dans la province du Kwilu sera à nouveau opérationnel dans les tout prochains jours après l'incendie de 2021 au cours duquel plus de 25 000 œuvres d'art sont parties en fumée. Le responsable du musée national de Gungu, Aristote Gibala, renseigne qu'il a pu réunir 7 000 pièces par ses efforts personnels après cet incendie. S'agissant des auteurs de ce crime, il précise que jusque-là personne n'a été arrêté et aucune enquête n'a été diligentée par les autorités pour retrouver les responsables de ce sinistre. On écoute Aristote Gibala au micro de Irène Boma.
Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu le gouvernement congolais venir faire les enquêtes, à l'exception du parquet qui sont venus faire les enquêtes. Mais ni la police, ni l'administrateur des territoires, ni les bourgmestres, ni l'ANR, ni quoi, mais c'est un événement grandiose, mondial, qui était parti en fumée. Et les inciviques ont touché la richesse et le patrimoine, mais ils ont laissé la tête. La tête est en train de travailler. Je pense que des pièces qui sont restées, qui ont résisté avec les faits, étaient au nombre de plus de 2000 pièces. Mais aujourd'hui, nous sommes à 7000 pièces. Aujourd'hui, nous avons plus de 7000 pièces des œuvres d'art antique, dont le pourcentage est de 98% d'art antique. Je me suis déployé, j'ai cherché des voies et moyens personnels. J'ai mis mes espoirs en jeu comme ça pour chercher, entrer en contact et participer par là.
Actualité, Afrique monte.
Du Nigeria au Malawi, les pays africains souffrent déjà des retombées économiques de l'invasion russe en Ukraine, entre hausse des prix des produits de première nécessité et de ceux du pétrole, faisant craindre une aggravation de la pauvreté dans tout le continent. À plus de 100 dollars le baril, les cours mondiaux de l'or noir ont atteint au début de la guerre leur plus haut niveau depuis 10 ans. Par ailleurs, la guerre en Ukraine signifie la fin en Afrique, a déploré la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva.
L'invité.
Une nouvelle loi régit le régime général de la sécurité sociale en RDC. Il s'agit de loi de juillet 2016 qui est entrée en vigueur en janvier 2019. Au Sud Kivu, la direction provinciale de la Caisse nationale de sécurité sociale a organisé une matinée de sensibilisation de ce nouveau cadre législatif. Quelles sont les grandes innovations apportées par cette loi? Madame Georgette Kavira, directrice provinciale de la CNCS, s'entretient à ce sujet avec Cynthia Bachizi.
Madame Kavira, bonjour.
Bonjour.
Cette nouvelle loi est effective depuis janvier 2019. Pourquoi avoir organisé une matinée de vulgarisation aujourd'hui?
Si j'ai tenu à organiser cette matinée de vulgarisation, c'est parce que nous avons remarqué que beaucoup de nos partenaires ne connaissent pas les avantages qui sont contenus dans la nouvelle loi. C'est une campagne. Nous avons commencé par les avocats. Aujourd'hui, nous avons une autre corporation. Demain, ce sont les experts comptables qui sont là aujourd'hui et les associations féminines. Demain ou après-demain, ça sera peut-être les secrétariats sociaux. Nous allons continuer jusqu'à atteindre toute la masse populaire.
Que ce soit du point de vue assujettissement ou du point de vue de la prise en charge, est-ce qu'ici vous pouvez nous donner de manière résumée les différentes grandes innovations apportées par cette loi?
D'abord, par rapport à l'assujettissement, c'est l'uniformité du taux de cotisation. Parce que avec le décret-loi, partout ailleurs, on était à 8,5% et seulement au Katanga, on était à 12,5% du fait que eux, ils payaient déjà les allocations familiales. Par rapport à l'assujettissement, toujours, il y a le mandataire peut être assujetti et bénéficier de la pension. Bon, par rapport à la prise en charge, comme je l'ai dit, c'est l'uniformisation de l'âge. Parce qu'avec le décret-loi, on était à 60 ans pour la femme et à 65 ans pour l'homme. Mais aujourd'hui, c'est à partir de 60 ans, vous remplissez toutes les conditions. Donc, si vous avez cessé toute activité salariée, si on a bien cotisé pour vous pendant au moins 10 ans, si vous avez justement accompli les 60 ans, vous demandez à votre employeur, si vous voulez prendre votre retraite, vous venez, on vous prend en charge. Mais à 65 ans, c'est fini, c'est tout, c'est le départ d'office. Par rapport à la prise en charge, il y a la pension des survivants qui était aussi discriminatoire à l'époque. Dans les décrets-loi, il y avait seulement la veuve qui bénéficiait de la pension des survivants. Mais actuellement, même le veuf aussi, il peut venir avec les orphelins, on le prend. En cas d'absence de la veuve ou du veuf des orphelins, s'il y a un ascendant qui est encore à vie, donc le parent de premier degré, il peut aussi venir, on va lui payer la pension des survivants. Par rapport à la pension des survivants, dans les décrets, là, c'était 40%. Aujourd'hui, c'est 50% de la pension du défunt.
Alors, autre innovation, c'est l'introduction des allocations prénatales. Vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a motivé justement le législateur de pouvoir apporter cette innovation?
Donc c'est pour encourager les femmes travailleuses ou les épouses des assurés de pouvoir suivre les consultations prénatales auprès des médecins.
Ça, c'est déjà à partir du troisième mois de grossesse.
Oui, dès que vous êtes enceinte et que le médecin a confirmé, à partir du troisième mois, vous venez, on vous donne le carnet de maternité et on va vous suivre. Vous venez au troisième mois, au sixième mois et au huitième mois. Et si vous voulez qu'on vous paye à chaque étape, mais si vous voulez aller jusqu'au bout, et au huitième mois, on vous paye les 48 000 francs. Après l'accouchement, maintenant aussi, il y a ce qu'on appelle l'allocation de maternité. Ça, c'est 72 000 francs congolais.
Très intéressant aussi ce que vous avez dit. Donc, la retraite d'office, c'est à partir de 65 ans, mais vous avez 10 ans pour pouvoir vous présenter ici à la CNSS. Au-delà de 75 ans, il y a prescription.
Oui. Dès que vous avez 65 ans, vous avez 10 ans pour vous présenter à la caisse. Mais si vous allez au-delà des 10 ans, donc à 75 ans, si vous venez, comme on est informatisé maintenant, le logiciel ne va pas rejeter le dossier. Donc, il faut faire attention. Dès que vous avez 65 ans, si vous avez voulu aller jusqu'à 65 ans, dès que vous avez 65 ans, il faut venir pour qu'on puisse calculer votre pension. Et votre pension, si vous avez travaillé pendant 15 ans au moins ou 180 mois, c'est 40%. Si vous avez travaillé au-delà de 15 ans, c'est 60% de votre salaire mensuel moyen.
Vous avez attiré l'attention sur des déclarations frauduleuses de la part de certains employeurs.
Oui, nous sommes en train de constater que Beaucoup d'employeurs ne déclarent pas réellement le salaire de leurs travailleurs. Ils minorent les cotisations. Mais la problématique, c'est que c'est le travailleur qui en pâtit. Ça veut dire que le travailleur, quand il viendra, nous allons tenir compte de ce qui a été déclaré et payé à la caisse. Donc, si s'avérait que vous avez eu à toucher 1000 dollars, par exemple, et que votre employeur n'a déclaré que 100, on va vous payer votre pension en fonction de ce qui a été déclaré et payé au niveau de la caisse. Nous attirons aussi l'attention des employeurs qui ne respectent pas le SMIG.
Le SMIG, c'est le salaire minimum
interprofessionnel garanti. Donc, nous demandons aux employeurs, les entreprises qui ne veulent pas bien cotiser, qui minorent les cotisations de leurs travailleurs, de faire attention parce que ces travailleurs-là qui vont souffrir par après avoir travaillé toute leur vie et arriver à la caisse, ils sont très mal payés et malheureusement, ils ne s'apprennent qu'à la caisse.
Je vous remercie.
Je vous en prie.
Notre invitée, la directrice provinciale de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, était avec Cynthia Bashizi Nabizana. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.